Donc, au cours du sermon aujourd'hui, j'aimerais que l'on voyage dans le futur. J'aimerais qu'on se projette dans un futur lointain, dans un sens, mais en même temps court dans un autre. Car nous sommes le jour après la fête des tabernacles, comme on a mentionné depuis le début, et ceci est la dernière des fêtes de l'automne, la dernière des fêtes annuelles de l'Éternel. Si on se reporte à Lévitique 23, s'il vous plaît. Lévitique, chapitre 23. Et le verset 36. Il est écrit, « Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » Car ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. » Donc, nous sommes présentement le 8e jour de la fête, ce que l'on appelle aussi le dernier grand jour. Et cette journée représente un jour absolument extraordinaire. Un jour extraordinaire pour tous ceux qui ont vécu, qui n'ont jamais vécu sur la terre, à partir de Adam et Ève et jusqu'à tous ceux qui vont vivre jusqu'au retour de Christ et qui vont mourir avant le retour de Christ. Et nous allons voir la signification, qu'est-ce qui va se passer dans plus tard cet après-midi. Mais j'aimerais prendre le sermon d'aujourd'hui pour vous faire voyager plus loin que ce 1000 ans, plus loin après la seconde résurrection, et en même temps vous faire rêver. Le titre du sermon aujourd'hui est tout simplement « La Nouvelle Jérusalem ». La Nouvelle Jérusalem. Reportez-vous à Apocalypse 20. Apocalypse, chapitre 20. Nous allons nous mettre un petit peu dans le contexte pour qu'on puisse comprendre le temps dans lequel on est, où l'on se situe dans le rêve que je vais vous proposer, dans la vision ou la projection que je veux que l'on fasse ce matin. Donc, reportez-vous à Apocalypse 20. Et ici, nous allons commencer au verset 11. Apocalypse 20, verset 11. Hier, nous avons fini au verset 10, lorsque M. Vahovic a donné son sermon. Donc, nous continuons. Apocalypse 20, verset 11. Il est marqué, « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Et des livres furent ouverts. » Et ici, le mot « livre », si vous regardez dans le grec, vous allez voir que c'est « biblios », qui veut dire « les livres » ou « la Bible », si on veut. Donc, les livres de la Bible seront ouverts. Ouverts à quoi? Ouverts à la compréhension. Pour que les gens puissent comprendre ce qui est écrit dans ces livres-là. Ce que le monde d'aujourd'hui ne peut pas. Encore une fois, allant à Jean 6, 44, où Dieu dit seulement « moi ». Ouvrir leur esprit pour qu'ils puissent venir à Christ. Donc, ces livres-là seront ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Donc, on voit ici que le livre de vie est encore ouvert et que les gens peuvent avoir leur nom écrit dans ce livre-là. Donc, le livre n'est pas fermé. C'est une période qui est très importante parce que tous les gens qui seront là, qui vont... Lorsque l'on voit le verset 13, ce qui est écrit, « La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. » Donc, c'est une période de jugement pour tous les gens qui vont revenir à la vie. C'est la deuxième résurrection. La deuxième résurrection qui est la résurrection la plus générale qui est là, qui a lieu. Et ils vont avoir un temps pour être jugés. Ils vont avoir un temps où ils vont pouvoir faire le choix. Gardez votre place ici dans l'Apocalypse, puisqu'on va revenir tout au long du sermon. Donc, si vous voulez mettre une note là, comme je vais faire présentement, on va revenir à plusieurs fois à Apocalypse 20, 21. Donc, mettez-vous une note ou un signet pour revenir. Mais reportez-vous présentement à Ésaïe 65. Ésaïe 65. Ésaïe 65, verset 17. Et regardez ce que Ésaïe dit ici. Isaïe dit au verset 17, « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses, les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. » Verset 18, « Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et mon peuple ma joie. Et on n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. » Une nouvelle Jérusalem, quelque chose de totalement différent. Une nouvelle terre qui sera rebâtie. Ici, on voit que le Christ va redonner vie à la terre après la dévastation qui va avoir lieu lors des trompettes, lors des derniers sauts. Des eaux vives vont couler de Jérusalem pour remettre la vie, redonner la vie à tous. Et si l'on va au verset 21, regardez ce qui est écrit. « Ils bâtiront des maisons et ils y habiteront. Ils planteront des vignes et y mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. » Verset 23 continue, il dit, « Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants sera avec eux. » Donc on voit une terre absolument extraordinaire, où il va y avoir une abondance, une richesse d'aliments, une richesse de vie, une richesse de famille. Ici, au verset 25, il est écrit, « Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, et le serpent aura de la poussière comme nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma sainte montagne. » Il y a un verset qui se rapporte exactement à un autre verset d'Isaïe que vous pourrez aller voir, qui est à Isaïe 11, versets 6 à 9. Mais ici, regardez aussi au verset 24 qu'est-ce qui est écrit. Il dit, « Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai, et avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. » La famille de Dieu sera là, Christ va être capable de répondre, Christ répondra à ce moment-là à tous ceux qui parleront, vont l'invoquer. Donc on voit ici un temps absolument merveilleux qui représente le temps du millénaire, où est-ce que les nations vont grandir, les nations vont s'épanouir, la terre sera d'une beauté absolument extraordinaire. Mais maintenant, revenez au verset 20. Parce qu'il est écrit là, il n'y aura plus ni vieillard, ni enfant, ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Donc ceci nous amène à la fin des 1000 ans, lorsqu'on va voir la deuxième résurrection où les gens auront leur propre maison, une période qui semble être de 100 ans, où les pécheurs qui auront 100 ans seront maudits. Donc, on dirait qu'on pense que c'est le temps qui sera donné à ce moment-là lors de la deuxième résurrection, où les gens vont revenir et ils vont voir une terre absolument magnifique à leur disposition. Et ils auront 100 ans pour faire leur choix, pour être éduqués, pour être enseignés, pour connaître les livres qui seront ouverts. Donc, si vous revenez dans Apocalypse 20, donc, on pense que c'est une période de 100 ans qui sera disponible à ce moment-là pour les gens à la fin du 1000 ans, après que les 1000 ans soient passés, donc la deuxième résurrection, et les gens à ce moment-là auront la possibilité de comprendre, de vivre et de faire leur choix et d'être en jugement, comme nous avons le choix présentement avec la vie que nous avons. Dieu nous donne le temps de faire nos choix, de faire nos décisions, de suivre Christ ou non. Donc, ce sera un temps de la deuxième résurrection. Maintenant, si on continue dans Apocalypse 20, nous allons au verset 14. Il est écrit, « Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Donc, on voit ici que tous ceux qui n'auront pas voulu écrire leur nom, on n'auront pas voulu prendre le choix ou faire le choix de suivre Dieu et d'avoir leur nom écrit dans le livre de vie vont être jetés dans les temps de feu à ce moment-là, vont être détruits, vont être détruits très rapidement. Donc, on voit ici la beauté du plan de Dieu où ce que les méchants ne pourront pas continuer à vivre dans la méchanceté, ils vont être tout simplement détruits. Mais vous notez aussi qu'au verset 14, il est écrit « Puis la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. » C'est seulement à ce moment-là que la mort et le séjour des morts seront finalement détruits, qu'il n'y aura plus de séjour des morts. C'est seulement à ce moment-là que nous allons voir accomplir pour toute l'humanité qu'est-ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 15. Reportez-vous-y. Tournons à 1 Corinthiens 15 et le verset 54. 1 Corinthiens 15, verset 54. On voit ici que ça parle de la première résurrection, donc pour nous. C'est les versets que l'on lit souvent ici à partir du verset 50 jusqu'à 53-54. Mais commençons ici à verset 54 parce qu'il est écrit « Lorsque ce corps corruptible aura vêtu l'incorruptibilité et ce corps mortel aura vêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite « La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » Et l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que le travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Donc, cette mort-là va finalement être détruite quand? Après la deuxième résurrection. Après le jugement du grand trône blanc. Donc, on sait que ces versets-là s'appliquent à nous pour une manière individuelle présentement parce que ça représente la première résurrection. Mais ça va être aussi la même chose pour la seconde. Les gens qui vont être dans la seconde vont avoir la chance de devenir des êtres spirituels, de faire partie aussi de la famille de Dieu. Mais ce n'est qu'à la fin de la deuxième résurrection que la mort sera engloutie dans la victoire. Et c'est merveilleux de pouvoir y penser, de pouvoir rêver à ça. Et les versets 56 et 58 que nous avons ici dans 1 Corinthiens 15 s'appliqueront à toute l'humanité, à tous ceux qui ont voulu avoir leur nom, qui ont travaillé, qui ont choisi d'avoir leur nom écrit dans le livre de vie. Et leur travail ne sera pas en vain. Maintenant, revenons à Apocalypse 20 encore. Donc, le signet va être utile. Donc, dans Apocalypse 20, ici, le verset 15, il parle de tous ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie seront jetés dans les temps de feu. Et plusieurs posent la question, des fois, en disant, oui, mais cet étang de feu-là, les gens vont souffrir ou on va voir des descriptions de qu'est-ce que cet étang de feu-là veut dire. Si vous allez dans Apocalypse 21, vous continuez la lecture, parce que les chapitres ont été ajoutés par les hommes après. Mais au début, Jean a écrit juste une lettre, c'était continuel. Donc le récit continue. Donc ici, tout de suite après le verset 15, Jean continue et dit « Puis je vis un nouveau ciel, et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Donc on voit ici qu'il y a quelque chose de tout à fait nouveau qui va commencer. Une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Et ici, on peut ajouter des versets, vous pouvez insérer des versets entre le verset 15, si on veut, et le début du verset 21, chapitre 21. Reportez-vous à 2 Pierre, chapitre 3. Encore une fois, j'espère que vous avez votre signet parce qu'on va revenir. Mais 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 3. Et en commençant au verset 10. 2 Pierre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Et les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme seront consumées. Verset 11. Puis tout cela est en voie de dissolution. Combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Donc, on voit ici au verset 10 que ce sera un feu absolument immense, une chaleur absolument immense qui va faire fondre, qui va embraser même les éléments de la terre. Donc, ce feu-là qui va détruire les méchants, qui vont détruire les gens à la troisième résurrection, ceux qui n'auront pas voulu suivre la voie de Dieu, ne souffriront pas longtemps. Ça va être quasiment instantané. Ils vont être brûlés et disparus. Ils souffriront pas longtemps. Peut-être une fraction de seconde. Mais avant ça, par contre, ils vont réaliser qu'est-ce qui va se passer. Ils vont réaliser le choix qu'ils ont fait. Donc, si vous continuez à lire ici au verset 12 de 2 Pierre 3, c'est marqué « Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Tous les êtres humains à ce moment-là seront partis de la vie spirituelle. Donc ici, nous avons les cieux et la terre qui passent avec fracas, avec grand bruit. Tous les éléments vont se dissoudre. Et regardez ici encore une fois, verset 13, c'est écrit, « Nous attendons. » Pierre parle ici des saints. Donc voyez-vous que le millénaire n'est pas le but à laquelle nous devons viser. Ce n'est pas la fin. Le millénaire de Christ, le 1000 ans de Christ n'est que le début de toute chose. Il y a une immensité de choses qui arrivent après. Le 1000 ans est juste le début. C'est un tout petit commencement. Mais même quand on le regarde, nous, il me semble que c'est immense. C'est tellement gros. Mais pour Dieu, il dit, c'est le commencement. Ce n'est que le début. Le millénaire n'est pas la fin de notre espérance. Reportez-vous à Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11. Le chapitre de la foi, tout le monde connaît. Mais regardez ce qui est écrit dans Hébreux 11, verset 13. 13 à 16. Hébreux 11, verset 13 à 16. Verset 13 dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Qui sont tous morts? Bien, tous ceux qui ont été mentionnés avant, dans le chapitre 11. Ils sont tous morts. On voit Abel, on voit Enoch, on voit Abraham. Donc, Enoch est mort. Et ils attendent la résurrection. Mais regardez ce qu'ils attendent aussi. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu, ou en vue, celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dieu leur a préparé une ville. Et cette ville, c'est la Nouvelle Jérusalem. Donc, on voit ici que ce n'est pas une ville physique, ce n'est pas une patrie physique, ce n'est pas un pays physique. Mais c'est une ville spirituelle, la Nouvelle Jérusalem. Reportez-vous à Galates chapitre 4. Galates, chapitre 4, je m'en allais dire galette. Galates, chapitre 4 et le verset 26. Regardez ce que Paul dit ici. « Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. » Ça, c'est Galates 5. Ça irait mieux si j'irais à Galates 4. Bougez pas, j'arrive. Galates 4, verset 26. « Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. » Le but final, n'est donc pas la première résurrection, mais la fin de la Bible, la nouvelle Jérusalem. C'est ça ici que Paul parle ici, mais la Jérusalem vient d'en haut, elle est libre. Elle est libre parce qu'elle obéit aux lois de Dieu. C'est la liberté totale d'être dans le royaume, d'être dans cette ville-là. Et c'est notre mère. Et c'est extraordinaire d'avoir ça. Donc, la nouvelle Jérusalem est la ville que l'on attend, la ville que Abraham regardait, que Abraham avait vue, que les gens de l'Ancien Testament qui avaient reçu le Saint-Esprit de Dieu voyaient, connaissaient, attendaient. Retournons maintenant à Apocalypse 21. Apocalypse 21. Parce qu'on voit ici que ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre, il n'y aura plus de mer. Et le verset 2 dit, « Et je vis descendre du ciel d'après Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Et une épouse, lorsqu'elle se prépare pour son époux, elle est toute belle. Une mariée est absolument extraordinaire. La plupart des réactions lorsque l'on voit les vidéos des maris qui attendent, ou des filles, et lorsque la dame rouvre les portes, Ça va être ma femme. Et c'est la même chose. Donc, ici, on parle d'une ville qui va être absolument extraordinaire, qui va être comme une épouse qui s'est préparée pour son mari. Et le verset 9, ici, descendons un petit peu plus bas, nous allons revenir après ça les versets suivants, mais au verset 9, c'est écrit, « Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, « « Viens et je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » L'épouse et la femme de l'agneau. Donc, la Nouvelle Jérusalem est l'habitation de l'épouse. C'est notre ville, la ville des saints. La ville qui est faite pour nous et que nous n'aurons pas encore vue ou que nous n'habiterons pas durant les 1000 premières années. Nous allons ici. Et elle va descendre avec le Père. Ça va être absolument extraordinaire. Maintenant, retournons au verset 3 ici de Apocalypse 21. Il est écrit, « J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Dieu le Père va descendre. Dieu va venir habiter avec les humains qui seront à ce moment-là toute partie de la famille de Dieu. Les choses anciennes auront disparu. Maintenant, le verset 5 ici répète un petit peu ce qui a été mentionné au verset 1. « Et celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Ce sont les paroles qui nous permettent d'être sûrs, qui nous permettent de rêver à ces choses-là, qui nous permettent de regarder avec ces choses-là avec certitude. C'est certain que cette ville-là va descendre. C'est certain qu'on va voir la Nouvelle Jérusalem. Et le verset 6 dit, « Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. » Il n'y a pas de prix. Tout comme nous avons reçu la source d'eau de vie gratuitement. On n'est pas capable de payer pour. Christ a décidé de nous donner ça gratuitement. C'est le plan qui a été fait depuis la fondation du monde. Verset 7. « Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Est-ce que ça peut être plus clair? Dieu veut que nous soyons ses fils et ses filles. On fait partie de sa famille. Et c'est le rêve que l'on doit avoir, c'est la vision que l'on doit avoir près avec nous. Et ensuite, au verset 8, on voit les conditions qui vont mener à l'étang de feu. Ces gens-là ne seront plus là, ne seront pas là à ce moment-là. Mais Dieu encore nous avertit, ne tombez pas dans ces pièges-là, allez pas là. Dieu nous avertit très clairement, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, ceux qui font des abominations. Vous pourrez faire une étude biblique là-dessus. Qu'est-ce qui est abominable pour Dieu? Il y a plusieurs choses. Les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, tous les menteurs, leur part sera dans l'étang de feu ardent et de soufre qui est la seconde mort, que l'on a vu à la fin du verset 20, chapitre 20. Il n'y aura personne qui va faire ces choses-là lorsque la Nouvelle Jérusalem va descendre. Ils vont tous être partis. Ils vont tous être disparus. Maintenant, regardez ce qui se passe au verset 10. Et je veux prendre le temps ici de décrire ce qui se passe parce que des fois, on lit tout simplement ces mots-là et on passe par-dessus sans vraiment penser à quoi on pense, à quoi on parle. Donc, je veux qu'on va prendre le temps ici de lire ces choses-là. Donc, au verset 10 de chapitre 21, il dit « Il me transporta en esprit sur une haute, une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. » La même gloire, la même magnificence que Dieu le Père. La même magnificence, le même éclat que Christ. Et par extension, la même définition, la même expression, le même état que vous et moi, qui serons les fils de Dieu, allons avoir. C'est absolument extraordinaire. Et son verset 11, il est décrit, son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Maintenant, j'aimerais prendre le temps ici, parce que ici, Paul dit, semblable à une pierre très précieuse comme du jaspe. Avez-vous déjà remarqué ou avez-vous déjà fait la recherche sur la pierre de jaspe? La pierre de jaspe peut venir en plusieurs couleurs, à de multiples couleurs. Mais la plus prédominante et celle qui était majoritairement connue dans le temps de Jean était rouge. Le jaspe était d'une couleur rouge ou rougeâtre. Mais qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que la pierre de jaspe, c'est une pierre qui est opaque. C'est une pierre qui ne laisse pas passer la lumière. Maintenant, regardez ce que Jean dit. Jean dit qu'elle était une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Donc, est-ce que ça peut être du jaspe? Le jaspe est opaque. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que Jean utilise des mots pour décrire une chose qu'il ne comprend pas. Probablement qu'il est allé pour la couleur. Parce qu'on... La pierre de jaspe n'est pas transparente. Elle n'est pas semblable à du cristal. La pierre de jaspe est opaque, mais elle est d'une couleur majoritairement rouge. La plus commune est le rouge. Donc, on voit ici que Jean fait référence possiblement à la couleur. Et il dit « elle est semblable à ». Donc, Jean ici décrit des choses avec des mots que lui connaît, mais il essaie de décrire quelque chose qu'il ne comprend pas, qu'il ne connaît pas. Donc, Jean ici ne décrit vraiment pas le matériel qui est utilisé, mais plus la couleur ou la teinte. Donc, on voit une couleur rouge, une ville qui est rouge, transparente comme du cristal. Au verset 12, il est décrit « Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. » Est-ce que ce sera le même arrangement que lorsque les tribus d'Israël étaient dans le désert? C'est une bonne question. Mais possiblement. Parce que Moïse a fait les choses selon le plan qu'il a vu de Dieu. lorsqu'il a bâti le tabernacle, lorsqu'il a bâti l'arrangement des choses. Il avait un plan. Est-ce que Dieu lui avait déjà montré la Nouvelle Jérusalem? Je ne sais pas. Mais possiblement. Mais il y avait donc trois portes à l'Orient, trois portes au Nord, au midi, trois portes, et à l'Occident, trois portes, aux quatre points cardinaux. Et la muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres. Absolument extraordinaire. Donc, on voit ici que nous avons un carré. Nous avons un carré qui est immense. On voit aussi que ce carré-là avait 12 fondements. Et maintenant, regardez ce qui est écrit au verset 15. « Et celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré. » C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. « Et sa longueur était égale à sa largeur. Et il mesura la ville avec un roseau, et il trouva 12 000 stades. » Pour nous, 12 000 stades, ça ne veut rien dire. Il y a le stade olympique à Montréal, là, mais je ne pense pas que c'est la mesure dans laquelle ils se sont servis pour faire la mesure. Mais un stade dépendant des commentaires que vous regardez, peut varier. Mais la mesure principale, la mesure que la majorité des érudits utilisent, disent qu'un stade équivaut à 201 mètres. 201 mètres. Pour ceux qui travaillent en pieds, multiplié par 3, ça fait 607 pieds, grosso modo. Donc, 600 quelques pieds, mais 201 mètres. Donc, si vous faites la multiplication de 12 000 stades multiplié par 201 mètres, vous avez une distance de 2414 kilomètres. 2414 kilomètres. Et à distance d'oiseau, c'est la distance approximative entre la ville de Québec et Miami. La ville de distance entre Miami et Québec, la vraie distance, c'est 2163. Ici, on parle de 2400, donc c'est un petit peu plus long. Mais ça vous donne un aperçu. Donc, Dieu descend avec un cube de 2400 kilomètres de côté. Et il l'amène sur la terre. Pour vous donner une petite idée de un aperçu. Si on regarde le Mont Blanc en France, vous pourrez aller voir, le Mont Blanc en France a une altitude, a une hauteur de 4,6 km. Ici, on parle d'une ville de 2400. Mais le Mont Blanc a une altitude, un sommet à 4,6 km. Et on peut voir le Mont Blanc, s'il n'y aurait pas d'autres obstacles, si on serait juste à la surface de la Terre, on serait capable de voir le Mont-Blanc à 247 kilomètres. Donc, vous avez le Mont-Blanc et 247 kilomètres plus loin, vous êtes capable de voir le sommet. Essayez de faire le calcul, voir avec une nouvelle Jérusalem qui aurait 2400 kilomètres de haut. Vous seriez capable de voir le sommet de la nouvelle Jérusalem à 6030 km de distance. Le rayon de la Terre, c'est 6300. Donc, vous seriez presque à l'équateur et vous seriez capable de voir la Nouvelle-Jérusalem au pôle Nord. Ça vous donne la dimension de la cité qu'on parle. Mais voyez-vous, avec 6300 km, ou 6371 km, le rayon de la Terre, ça serait juste pour un point. Mais la Nouvelle Jérusalem va avoir 2400 km de large. C'est un sixième du diamètre de la Terre. Donc, vous allez être à l'équateur, puis vous verriez la Nouvelle Jérusalem sans aucun problème. Vous verriez même ses fondations. Parce que la Terre est tellement petite, que les fondations seraient dans les airs, au bout. Le rayon de la terre est trop petit pour prendre la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem doit être sur une terre beaucoup plus grosse. Sans ça, les coins sont en flotte. La terre n'est pas assez grosse. C'est immense. Et ce sera votre, notre cité. C'est là qu'on va rester. Vous rendez-vous compte? La dimension, la capacité que cette montagne-là ou que cette ville-là va avoir, ce sera absolument extraordinaire. Et encore une fois, il y en a quelques-uns qui parfois disent que c'est probablement, c'est peut-être une pyramide. Donc, encore une fois, je veux dire non à cette question-là. Ce n'est pas une pyramide, c'est un cube qu'on parle. Et pourquoi qu'on dit que c'est un cube? Parce que dans, reportez-vous à 1 Roi 6, 1 Roi chapitre 6, et le verset 20. Regardez le sanctuaire, là, il dit, c'est marqué ici. Le sanctuaire avait 20 coudées de longueur, 20 coudées de largeur et 20 coudées de hauteur. Salomon le couvrit d'or pur. Le tabernacle, les temples ont été faits selon des plans qui étaient vus en haut. Ce n'est pas Moïse ou David ou Salomon qui ont décidé de dire « Oh, on va faire un cube, c'est plus cute, c'est plus joli. » Non, ce sont des directives qu'ils ont reçues de Dieu. C'est des cubes qu'on parle ici. Donc, nous avons ici un cube parfait. Et le temple était donc fait selon les plans que Dieu a donnés. Une représentation de choses qui existent dans les cieux. Des choses qui existent en haut. Donc ici, on a donc un cube de 2400 km qui va être absolument d'une beauté inouïe. Revenons à Apocalypse 21. Apocalypse 21. Et on va regarder un petit peu plus les détails de qu'est-ce que cette nouvelle Jérusalem-là. Allons lire le verset 17. Et il mesura la muraille, et il trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. Encore une fois, si l'on prend des coudées, les coudées peuvent varier, mais mettons une coudée de 18 pouces. On parle ici de 144 fois 18 pouces. Donc la muraille avait 216 pieds. 216 pieds. Ça commence à être de la muraille, ça, mesdames et messieurs. Et regardez ce qui est écrit au verset 18. Ici, la muraille était construite de jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Donc, la muraille, l'enceinte qui tient la Nouvelle Jérusalem, la muraille était d'un rouge. Et la Nouvelle Jérusalem, elle est d'or. Imaginez un rouge vif. Et en arrière, vous avez de l'or pur, transparent. Imaginez la beauté de cette chose-là quand elle va descendre. Ça va être absolument extraordinaire. Regardez maintenant les fondements. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe. Encore une fois, c'est probablement rouge. Et ensuite de ça, qu'est-ce qui est écrit? On va lire le deuxième. Et le premier fondement, donc, était de jaspe. Le deuxième était de saphir. Saphir, la couleur la plus connue, est bleu. Rouge, bleu. Le troisième était de chalcédoine. Chalcédoine, c'est une coloration laiteuse. Ça ressemble à du lait, blanc, mais sombre. Le quatrième était un émeraude. Émeraude, c'est vert. Un très beau vert. Le cinquième était le sardonyx. Sardonyx, encore une fois, c'est majoritairement blanc, avec des rouges, avec des lignes de rouge dedans. Le sixième était le sardoine. Sardoine, encore une fois, c'est rouge. Donc, vous voyez les alternances de couleurs. Mais en travers ça, il y a aussi du blanc, sardoine rouge. Chrysolite, qui est la sixième, le septième, c'est du chrysolite. Le chrysolite, c'est vert pâle. Un beau petit vert. Le huitième, c'est du béryl. Béryl, c'est un majoritairement blanc. Le neuvième, c'est du topaze. Topaze, probablement une couleur jaunâtre. Encore une fois, la plus connue. Il y a plusieurs teintes, mais la plus populaire, c'est jaune ou jaunâtre. Et le dixième, c'est du chrysoprase. Le chrysoprase est majoritairement vert. Le onzième, c'est d'hyacinthe. Hyacinthe, c'est bleu. Référence, vous pouvez aller voir Apocalypse 9, verset 17. On ne se reportera pas. Et finalement, le douzième, c'est de l'améthyste. Et de l'améthyste, c'est violet. Donc, lorsque vous serez à la maison, vous pourrez faire un bricolage. Prenez-vous des crayons de couleur, allez chercher vos petits-enfants, vos enfants, si vous en avez. Prenez leur crayon de couleur pour 5-10 minutes. Puis faites juste de dessiner. Puis mettez par-dessus ça la muraille rouge. Puis la ville en or pur en arrière. La beauté de cette chose-là. La beauté de cette ville-là. Imaginez le spectre de couleurs. On est tout émerveillé lorsqu'on voit un arc-en-ciel. Imaginez lorsque vous allez voir ces 12 fondements-là descendre. Qu'il va y avoir une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Vous allez voir Dieu le Père descendre avec cette nouvelle Jérusalem. Absolument extraordinaire. Et regardez ce qui est écrit au verset 21. Et verset 21, les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. Je ne sais pas si vous connaissez quel est le processus pour faire des perles, mais des perles sont faites à partir d'huîtres. Donc, on met un petit quelque chose à l'intérieur de l'huître, et l'huître, avec le temps, travaille, fait du nacre et fait une perle. Donc, si on a une porte qui est faite avec une perle, j'ai pas hâte de voir la grosseur de l'huître. Donc ici, évidemment, on ne parle pas de vraies perles, on parle de quelque chose d'autre. Mais c'est une seule pièce, c'est rond, et c'est une seule porte. Et il va en avoir 12 comme ça. Et c'est un ange qui va être à la porte. Lorsqu'on voit les descriptions des anges, comme entre autres dans le Jardin d'Éden, ou dans les autres descriptions dans Ézéchiel, etc., des êtres absolument fantastiques qui vont aux portes de cette nouvelle Jérusalem-là. Ça va être absolument extraordinaire. Donc ici, c'est marqué au verset 21 que la place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Encore une fois, de l'or pur, c'est beau, mais c'est pas transparent comme du verre. Ça a une densité. On n'est pas capable de voir au travers. Donc ici, on parle de choses que j'en connais pas. Des matériaux qui n'existent pas ou que l'on ne voit pas. Ils existent, mais on ne les voit pas. Ici, c'est marqué, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a pas besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer. Y a-t-il un doute, là? Dieu est celui qui a créé le soleil. Et le soleil qui nous éclaire, qui est à 149 millions de kilomètres d'ici, est un des petits soleils de l'univers. Il y a des soleils qui sont absolument immenses comparativement à notre soleil. Il y a des soleils qui existent qui font que notre soleil est comme une pointe d'aiguille. Des soleils qui ne passent pas entre le soleil et Neptune. Des boules de feu absolument immenses, mais encore là, créées par Dieu. Donc Dieu ici est 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, 1 million de fois, 1 milliard de fois, infiniment fois, plus gros, plus puissant que le soleil. Il n'y a pas besoin de soleil, il n'y a pas besoin de lune. parce que Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Au verset 24, les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. Il fait toujours jour. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé. Absolument, ils vont être détruits, vont être disparus. Et personne, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau. Donc, seuls ceux qui ont passé au travers de la première résurrection, de la deuxième résurrection, et tous ceux qui n'ont pas voulu avoir leur nom écrit dans les livres de l'agneau et qui vont être disparus, il n'y a personne d'autre qui rentre là. Dieu le Père vient quand tous les hommes sont des êtres spirituels, sa famille, et il va avancer. Le chapitre 22 continue. Regardez ce qui est écrit au chapitre 22. Nous allons ici aller au verset 6. Et il me dit, « Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. » Donc, voyez-vous que pour Dieu, le 1000 ans qui est entre les deux, c'est rien. Voyez-vous que le 1000 ans qui va se passer là va passer comme ça? Et voyez-vous pourquoi au début du sermon, je vous disais, je vous fais voyager dans le temps qui est lointain pour nous, mais qui va être très proche pour Dieu. C'est comme demain. Et pourtant, il y a 1000 ans entre les deux. Mais Dieu dit ici au verset 6, « Ses paroles sont certaines et véritables. Il n'y a aucun doute. » Et c'est des rêves qui sont absolument fantastiques. Verset 7 dit, « Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Et ça, c'est nous. Nous devons garder les paroles qui sont écrites dans ce livre. On doit pratiquer les choses qui y sont écrites. On doit vivre selon les lois qui sont écrites dans ce livre-là. Cette ville où nous allons habiter sera notre habitation pour l'éternité. Et l'univers va être absolument différent. Et la suite n'est pas dite. On n'a pas de détails sur qu'est-ce qui va venir après. Parce que la Bible, c'est pour l'humanité. C'est le début de l'humanité jusqu'à la fin. Mais après ça, on ne sait pas. Et c'est pour ça qu'on voit des choses absolument extraordinaires, comme c'est marqué dans Ésaïe, chapitre 9. On a déjà été, mais reportons-y, retournons. Ésaïe, chapitre 9. Ésaïe, chapitre 9. Laissez le temps au traducteur de me suivre. Ésaïe, chapitre 9 et le verset 6. Ça parle de Christ. Ésaïe 9 et le verset 6, « Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au royaume de David et à son royaume, au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. » Mais voyez-vous, ici, c'est écrit « une paix sans fin » et « à l'empire de l'accroissement ». Ici, les termes anglais pour « le royaume » veut dire « à toujours ». Il n'y aura pas de fin à ce royaume-là. On va faire partie de cette ville-là qui va demeurer, une demeure qui va être avec nous. Donc, voyez-vous l'importance de ce qui nous est dit aujourd'hui, de ce que l'on a appris tout le long de la fête, d'appliquer et de mettre en pratique tout ce qui est écrit dans ces choses-là, parce que c'est un rêve absolument extraordinaire que l'on a. Oui, on peut rêver à la première résurrection, absolument. Mais on doit aussi avoir en tête la deuxième et la nouvelle Jérusalem. une ville absolument extraordinaire qui va nous propulser vers quelque chose que l'on n'a aucune idée, mais que Dieu va nous donner, va refaire, va façonner. Et nous allons être occupés. Plusieurs viennent me voir déjà, ils me disent, c'est déjà fini, ça a passé tellement vite. Mais ça veut juste dire que le 1000 ans va passer tellement vite. Mais qu'après ça, il y a l'infini. Et ça va être absolument extraordinaire. Et c'est une chose que l'on peut rêver. Retournons à Apocalypse 22, s'il vous plaît. Apocalypse 22. Apocalypse 22. Et on voit ici que même Jean, le verset 8, même Jean était tellement ébahi, Jean était tellement abasourdi par la dimension, par la grosseur de ce qu'il voyait, qu'il dit, c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand Jean j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Et regardez ce que l'ange dit. L'ange dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Encore une fois, voyez-vous l'avertissement? Nous devons garder les paroles de ce livre. Et c'est pour ça que l'on doit faire tout ce qui est écrit dans ce livre. Comme l'apôtre Paul mentionne dans Actes 20, je donne tout le conseil de Dieu. Tout doit être fait. Et ensuite de ça, cet ange-là dit, adore Dieu. Absolument. Adorons cet être-là qui nous donne la possibilité de rêver à ces choses-là. Et ensuite, regardez ce qu'il dit au verset 10. Il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Frères et sœurs, il est proche. Chaque année qui passe, nous sommes une année plus proche. Ces choses-là vont arriver. Verset 11. Que celui qui est injuste soit injuste, encore injuste, et que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. On n'a pas fini. Cette vision-là doit être en avant de nous, mais on doit forcer, on doit travailler pour la rejoindre. On a une vision absolument extraordinaire. Et on doit encore vaincre, on doit encore pratiquer la justice, être encore plus sanctifié. Nous ne devons pas arrêter le chemin. Utilisez tout ce qu'on a entendu durant la fête pour vous propulser, aller de l'avant. Vous devez être différent, vous devez changer. On doit observer les lois, les commandements. C'est tellement important. Verset 12. « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. » Encore une fois, cet avertissement-là est tellement puissant. Il y a une récompense et Dieu vient avec cette récompense-là. Il y a un rêve absolument extraordinaire à la portée de main. Mais vous devez le saisir. Nous devons le saisir. Je suis l'alpha et l'oméga, verset 13. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. Encore une fois, le privilège extraordinaire que l'on voit marcher et rentrer dans cette ville-là par l'une des portes. Selon qu'est-ce que Dieu va nous avoir donné. D'avoir la possibilité de voir et de finalement toucher. À quoi ça va ressembler, cette muraille-là? Quel va être le toucher? Qu'est-ce que ça va sentir? Qu'est-ce qu'on va entendre? Avez-vous déjà entendu une chorale de, mettons, 1500 personnes qui chantent différentes partitions? Combien c'est beau! Imaginez une chorale d'anges. 100 millions, 200 millions, 1 milliard, on ne sait pas. Mais qui ont une voix parfaite, qui ne se trompe jamais. Je chantais assez souvent pour vous dire qu'on se trompe souvent dans nos partitions. Mais les autres ne se tromperont jamais. Ils vont pouvoir partir de extrêmement bas jusqu'à extrêmement haut. Présentement, on entend juste à peu près ça dans le nombre, dans les bandes sonores qui existent. Mais vous entrez dans la porte et vous entendez les anges qui chantent. J'ai aucune idée de ce qu'ils vont chanter, mais en tout cas, ça va être beau. Vous allez être capable de voir Dieu le Père, vous allez voir Christ, vous allez voir les saints, et vous allez avoir cette ville absolument extraordinaire que vous allez être entré à l'intérieur. Vous allez voir les anges pouvoir dire « Salut, ça va? » Et ces anges-là vont être là pour vous servir, pour nous aider. Vous pouvez y rêver, frères et sœurs. Mais au verset 15, encore une fois, une très sérieuse mise en garde. Donc, dehors, les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, quiconque aime et pratique le mensonge, ces gens-là ne seront plus là. Donc, ce sont des voies de vie, des choses que l'on doit éliminer. Et surtout de pratiquer le mensonge. Verset 16. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de David, le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, verset 17. Et celui qui entend dise, viens. Et celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Encore une fois, le même contexte, le même texte, le même mot utilisé que précédemment. Je le déclare à quiconque entend la parole de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Et c'est pourquoi Dieu nous dit de faire toute chose qui est dans la Bible. On ne peut pas laisser des choses de côté. Certaines organisations présentement votent, ont des élections pour élire leurs dirigeants. Ce n'est pas biblique. Vous rejetez les enseignements de la Bible. Nous ne sommes pas tous pareils. C'est pourquoi on est ici et les autres sont à d'autres places. On est différent. Il faut faire tout ce que Dieu nous demande de faire. Et le verset 20 dit, « Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, ainsi soit-il, viens, Seigneur Jésus, et que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous, ou avec tous. » Et c'est qu'est-ce que nous devons rêver. C'est le rêve que l'on peut regarder. Et Dieu dit, « Je m'en viens, je suis à la porte, je suis juste au coin de la rue. » Des fois, lorsque je vais faire des commissions, ma femme m'appelle et me dit, « T'es rendu où? » Et la majorité des temps, du temps, 95%, je dis, « Je vire dans la rue chez nous. » Et c'est ça que Christ nous dit. Il dit, « Je suis juste au coin de la rue, je m'en viens. » Les années qui restent vont passer vite. Concentrez-vous sur qu'est-ce qu'il y a à faire. Regardez la mission que vous avez. Regardez cette vision absolument extraordinaire que vous avez en avant de vous. Oui, il y a la première résurrection. Mes frères et sœurs, notre habitation éternelle est la nouvelle Jérusalem.